Bonjour, hello, hi, hola, c'est Judith, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado, le français, moi j'adore. Hello, hello, hello! Bienvenue à ce quatrième épisode. Dans cet épisode, je voudrais en fait faire des mises au point par rapport à l'épisode précédent, donc par rapport à l'épisode 3. Il y a des petites choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord avec ce que je disais moi-même. Alors, je me contredisais moi-même. Tout va bien? Ça fait pas très sérieux. Mais c'est ça, dans le feu de l'action, quand on est en train de s'enregistrer, je pense que des fois, nos mots dépassent notre pensée. Il y a des choses qu'on dit, qu'on affirme, puis avec un peu de recul, on s'aperçoit que c'était pas tout à fait ça qu'on aurait dû dire, c'était pas tout à fait ça qu'on voulait dire. Donc, je veux me reprendre dans cet épisode-ci. Alors, il y aurait trois mises au point que je voudrais faire. La première, c'est au sujet de chu ou chui. J'ai parlé de ça là, dans l'épisode précédent. Donc, au lieu de dire je suis, je dis assez souvent chu ou chui. Et j'ai dit dans l'épisode 3 que il m'arrivait de dire chu quand j'étais pressée. Et puis là, en me réécoutant, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment fondé, c'était pas vraiment, comment je dirais ça, c'était pas tout à fait juste de dire ça, parce que c'est pas quand je suis pressée, vous voyez, je viens de dire « je suis », là, c'est pas quand je suis pressée que je dis « chu », c'est quand je parle juste tout à fait normalement, quand je me sens à l'aise de m'exprimer d'une manière naturelle, là. Donc, c'est plus que je... Tu sais, ça relève, là, je pense l'avoir dit, je l'ai dit dans l'épisode 3, ça relève d'un niveau de langue familier, une prononciation comme celle-là, « chu » ou « chui », plutôt que « je suis ». Puis, le niveau de langue familier, c'est un niveau de langue qu'on va utiliser dans un contexte où, justement, on se sent à l'aise. Familier, c'est comme si ça veut un peu dire avec des membres de notre famille, avec des amis, avec des gens de qui on se sent proche. Alors, c'est pour cette raison-là que je vais utiliser, que je vais dire chu ou chui. C'est vraiment pas parce que je veux parler vite ou parce que je suis pressée. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas mal la précision que je voulais faire là, par rapport à ça. Tout est relié au contexte, là. Je l'ai dit dans l'autre épisode, je le répète. Je pense que les linguistes appellent ça la situation de communication. Donc, le contexte, ça veut dire carrément à qui on parle, à qui on s'adresse. Si on est en train de faire un discours de remerciement je pense dans l'autre épisode, j'ai parlé d'un gala ou de... mais je parlais de l'habillement, là, mais c'est ça, si on est en train de faire un discours de remerciement dans un congrès, par exemple, ben, peut-être qu'on va utiliser un niveau de langue un petit peu plus relevé, là, standard ou même soutenu, peut-être. Mais tout est relié au contexte. Alors, c'est la précision que je voulais faire par rapport à ça. J'utilise le mot chu ou chui dans un contexte où je me sens à l'aise de le faire. Puis aussi, cette décision-là, c'est pas tout à fait une décision. C'est-à-dire que quand on se met à parler d'une certaine manière, c'est quelque chose qui se fait de manière assez inconsciente, je pense. C'est quelque chose d'automatique. On n'y réfléchit pas vraiment. On se dit pas, ah là, je vais faire attention, je vais parler comme ça, ou je vais plutôt utiliser ces mots-là, ou je vais plutôt modifier la prononciation de certains mots, parce que ça se fait d'une manière naturelle. sans qu'on y réfléchisse. C'est un peu comme respirer, là. C'est comme de respirer. Quand on respire, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on doit faire pour respirer comme il faut. On n'est pas en train de se dire, OK, là, je dois aspirer l'air dans mes poumons, puis là, je dois expirer l'air. Non, ça se fait d'une manière tout à fait naturelle. C'est pareil avec les niveaux de langue ou les registres de langue qu'on va utiliser, là. C'est la même chose, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc, OK, voilà pour cette première mise au point. La deuxième mise au point, c'était au sujet des exemples que j'ai donnés aussi dans l'épisode 3. J'ai donné, j'ai parlé de pantoute, là, qu'on va utiliser plutôt que du tout ou pas du tout. Donc, pantoute, le mot piastre aussi, j'ai parlé de ça, c'est un autre exemple que j'ai donné, qu'on va utiliser piastre plutôt que dollar. Très souvent au Québec. Le « tu » qu'on va ajouter aussi à la fin de certaines questions. « Il fait-tu froid dehors? »« Il fait-tu froid aujourd'hui? »« Il va-tu mouiller aujourd'hui? »« Il va-tu pleuvoir? » Donc, ce « tu » là. Alors, ces exemples-là, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce sont des exemples que j'ai tirés de ma propre expérience. Alors, ce sont des mots que moi, j'utilise, des manières de m'exprimer qui sont les miennes. Puis ce que je voulais préciser, c'est que ce n'est pas tout le monde, évidemment, qui parle de la même façon. Le français parlé au Québec est très diversifié. Comme dans toutes les langues, d'ailleurs, l'anglais parlé aux États-Unis est très diversifié aussi. La manière de parler des gens qui vivent dans le nord des États-Unis en comparaison avec des gens qui vivent dans le sud des États-Unis va être différente. C'est pareil au Québec, c'est pareil dans toutes les langues. Alors, c'est ce que je voulais préciser. Et puis aussi, j'ai eu une idée pour vous donner un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. En fait, l'accent québécois, certaines expressions québécoises, j'ai pensé que je pourrais vous lire un extrait d'une pièce de théâtre. La pièce de théâtre s'intitule « Les belles-sœurs ». C'est une pièce qui a été écrite par Michel Tremblay. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Michel Tremblay. C'est un auteur québécois très connu. Je pense que ça doit être l'auteur québécois le plus connu, là, aussi bien au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des romans aussi, il a écrit des récits. C'est un auteur très prolifique, là. Il a écrit beaucoup et c'est très, très bon ce qu'il fait. Moi, j'ai lu quelques-uns de ses romans et puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Je vous le recommande là, si vous cherchez de la lecture. Et donc, c'est ça, l'extrait que je voulais vous lire, il est tiré des Belles-Sœurs. Les Belles-Sœurs, c'est une pièce de théâtre qui a été faite en 1968. Elle a été montée pour la toute première fois, c'est ça, jouée sur scène, en fait, pour la toute première fois en 1968. Et ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Germaine Lauzon. Et Germaine Lauzon, elle a gagné 1 million de timbres de la Gold Star. La Gold Star, c'est une entreprise qui fabrique des meubles, des électroménagers, toutes sortes de produits, là, toutes sortes de biens pour la maison, j'ai l'impression. Ce qui se passe, c'est que, les timbres, ah oui, c'est ce que je voulais dire, les timbres, les fameux timbres en question, c'est pas des timbres qu'on colle sur une enveloppe, là, puis qu'on envoie par la poste, là, qu'on envoie l'enveloppe par la poste, c'est pas des timbres postaux, c'est des timbres qu'on colle dans un catalogue, et avec un certain nombre de timbres, on peut obtenir en échange... Un bien, un objet. Donc, par exemple, une télévision, un divan, de la vaisselle, etc. Alors, Germaine Lauzon, étant donné qu'elle a gagné 1 million de timbres, elle va, c'est comme ça, elle avait gagné beaucoup d'argent, enfin, finalement, et elle va coller ces timbres-là dans le catalogue et... Elle va probablement pouvoir, c'est ce qu'elle va dire elle-même là, dans l'extrait que je vais vous lire, qu'elle va pouvoir presque se payer le catalogue au complet. Alors, puis vous allez voir qu'elle ne dit pas catalogue, mais elle dit catalogue, le catalogue. Et donc, c'est ça, pour réussir à coller tous ces timbres-là, 1 million, c'est vraiment énorme, elle va faire appel à de la parenté, à des amis, toutes des femmes, d'où le titre de la pièce, Les belles-sœurs. Ce ne sont pas toutes ces belles-sœurs qui vont venir, mais ça s'appelle Les belles-sœurs quand même. Et donc, dans le passage que je vais vous lire, elle va parler à sa sœur au téléphone et elle va lui raconter qu'effectivement, elle a bel et bien reçu son million de timbres. Et donc, je vais commencer l'extrait en disant début de citation et quand j'aurai terminé ma lecture, je dirai fin de citation. Début de citation. Ben oui, sont arrivés. C'est bien pour dire, hein? 1 million. Ils sont devant moi, là. Puis je le crois pas encore. 1 million. Je sais pas au juste combien ça fait, mais quand on dit 1 million, on rit plus. Oui, ils m'ont donné un catalogue avec. J'en avais déjà un, mais celui-là, c'est celui de cette année. Ça fait que c'est bien mieux. L'autre était toute maganée. Oui, il y a assez des belles affaires. Tu devrais voir ça. C'est pas créable. Je pense que je vais pouvoir tout prendre ce qu'il y a dedans. Je vais tout meubler ma maison en neuf. Je vais avoir un poêle, un frigidaire, un set de cuisine. Je pense que je vais prendre le rouge avec des étoiles dorées. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Il est assez beau, hey! Je vais avoir des chaudrons, une coutellerie, un set de vaisselle, des salières, des poivrières, des verres en verre taillé avec le motif caprice, là. Tu sais, s'ils sont beaux. Fin de citation. Alors, j'ai essayé de faire ma comédienne, mais je ne suis pas comédienne, mais j'ai essayé du mieux que j'ai pu là, de reprendre l'accent de l'époque. Et donc, c'est ça, je pense, ça s'entend quand même assez bien, je pense, la différence par rapport à d'autres accents que vous devez entendre là, autour de vous. Puis, c'est ça, donc le mot « catalogue », il est vraiment écrit dans le texte « catalogue ». Puis, c'est vrai que ça pouvait se dire comme ça, ça pouvait se prononcer comme ça. Il y a aussi un moment donné où elle dit « c'est pas créable ». En fait, elle veut dire « c'est pas croyable, on peut pas le croire ». Tu sais, « I can't believe it, it's unbelievable », si on le disait en anglais. Alors, ça, c'est pareil, c'est un autre exemple. Alors, c'était juste pour vous donner une idée, là, vraiment, là, de la façon dont le français peut être parlé au Québec. Donc, je pourrais dire que ça termine le point 2, là, la précision numéro 2 que je voulais faire. Et la dernière précision que je voulais faire, c'était au sujet du fait que je ne parle pas espagnol. Ça, c'est plus ou moins lié à l'épisode précédent, mais en fait, au début de chacun des épisodes, je dis « hello, hi, hola ». Puis là, je me suis dit « peut-être que ça peut prêter à confusion, peut-être que les gens vont croire que parce que je dis « hola », ça veut dire que je parle espagnol ». Malheureusement, non. Ça m'attriste vraiment. Là. J'aurais vraiment aimé ça, parler espagnol, mais c'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle je dis « hi » et « hola », c'est pour peut-être vous rejoindre dans votre langue maternelle, avec de la chance peut-être que je tombe sur votre langue maternelle. C'est aussi, je dis « hi » parce que je me doute bien que la plupart des gens vont comprendre « hi » en anglais, là, la salutation. « Hello » aussi, là, mais moi, je dis souvent ça en français. « Hello! » Donc, je dis ça souvent. Mais, donc, c'est ça. C'était plus que vous souhaiter la bienvenue pour que vous vous sentiez en terrain connu, là, peut-être en terrain de connaissance, là. C'est sûr que l'idéal, ce serait que je puisse dire bonjour dans plein d'autres langues. J'aurais beaucoup aimé être capable de dire bonjour en arabe, en italien, en portugais, en vietnamien, en cantonais, en mandarin. Bon, j'aurais vraiment adoré être capable de faire ça, mais malheureusement, c'est pas possible. Là. Malheureusement, j'ai pas ces compétences-là du tout, du tout. Alors, je me limite à l'anglais et à l'espagnol. Et puis, en plus, c'est ça, l'espagnol, je le comprends minimalement, mais je le parle pas du tout. Puis d'ailleurs, il y a vraiment une grosse différence entre comprendre une langue et parler une langue, et entre donc comprendre et produire. C'est vraiment deux choses différentes. J'aurais voulu vous donner un exemple de ça. Admettons, si j'étais dans un cours d'espagnol, disons, et qu'on me demandait de raconter le début de ma journée en espagnol. Là, il faudrait que je cherche plein de mots dans ma tête que je connais pas. T'sais, admettons que je voudrais dire, je me suis réveillée ce matin, je me suis fait un café, j'ai mangé deux toasts en lisant le journal. Admettons que je voudrais dire ça. Ben, il y a plein de mots là-dedans dont je ne connais pas les équivalents en espagnol. Café, je sais que c'est café. Journal, je sais que c'est periódico. Mais c'est tout. C'est tout. Mon vocabulaire est très, très, très limité. Donc, il faudrait que je cherche ces mots-là je disais les chercher dans ma tête, mais je ne les ai pas dans ma tête. Il faudrait que je les cherche dans le dictionnaire ou que j'utilise un outil là, de traduction. Un outil de traduction en ligne. Puis c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai fait l'exercice, là. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil de traduction-là. Ça s'appelle DeepL. DeepL, deep, comme en profondeur, D-E-E-P, L pour linguistique ou language, là, je ne me souviens plus trop. Donc DeepL. Ça s'écrit, c'est tout collé ensemble. Si jamais, c'est gratuit, là, ça se trouve en ligne gratuitement. Puis c'est très performant, ça fonctionne assez bien, vraiment bien même, je dirais. Puis mieux que Google Translate, à mon avis. Alors si jamais vous avez besoin de traduire quelque chose, là, vous pouvez utiliser cet outil-là. Là. On s'en sert beaucoup dans le milieu de la traduction. Et donc, il peut reconnaître la langue et il peut, mais vous tapez, mettons, une partie dans la langue de départ, puis là, vous lui demandez de traduire ce que vous venez de taper dans la langue de votre choix, puis la machine va le faire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé j'ai mis français, puis j'ai tapé « je me suis réveillée ce matin, je me suis fait un café, j'ai mangé deux toasts en lisant le journal ». Puis là, j'ai demandé que DeepL traduise en espagnol. Puis ça a donné « Esta mañana me he hecho un café ». Oh mon Dieu, je suis en train de massacrer l'espagnol, c'est nul. « Me he hecho un café, me he comido dos tostadas mientras leía el periódico ». Voyez comment je suis nul. Bon, ben. Voyez, tostadas, j'aurais pas su que c'était ça, des toasts. Mañana, j'aurais pas pensé à utiliser le mot. Mais si j'avais entendu quelqu'un dire cette phrase-là, avec le contexte dans lequel la personne aurait dit cette phrase-là, j'aurais reconnu mañana, j'aurais reconnu café, évidemment. Comido, j'aurais reconnu le verbe comer qui veut dire manger, donc j'aurais reconnu que la personne est en train de dire qu'elle avait mangé quelque chose. Tostadas, j'aurais peut-être fait le lien avec mañana qui est le matin, donc je me serais peut-être dit elle parle du déjeuner. Et periódico, là j'aurais compris le journal. Donc avec ma compréhension de cette phrase-là, elle aurait été possible parce que avec le contexte, j'aurais été capable de faire des déductions, puis finalement de comprendre en gros de quoi il était question. Mais là, l'étape suivante qui consiste à dire soi-même quelque chose dans la langue qu'on est en train d'apprendre, là, c'est complètement une autre étape parce que les mots, il faut déjà les connaître. Puis dans la plupart des cas, ben on se débrouille quand on apprend grâce au contexte. Mais après ça, de reproduire, de recréer une phrase sans entendre les mots, en étant obligé de les dire soi-même, bien là, c'est une toute autre étape. Ça demande complètement d'autres compétences, là. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait retenu, qu'on ait appris beaucoup de vocabulaire. Puis, ben c'est pas mon cas. Donc, j'aurais pas été capable, de mon côté, de produire cette phrase-là en espagnol. Et donc, c'est pour ça que ces deux étapes distinctes, comprendre et parler, c'est deux choses différentes. Puis là, quand vient le temps de parler, ben l'autre chose qu'il faut être capable de faire, c'est de ne pas être gêné, de se dire « Ah, je vais peut-être… excusez-moi, il y a un camion qui passe, là, un balai qui passe dans la rue, puis ça a fait du bruit. » Bon, il est pas mal parti. Oui, c'est ça. Il faut laisser de côté son orgueil, puis se dire « Bien, c'est pas grave si je fais des fautes, c'est pas grave si je me trompe, c'est pas grave si je prononce pas les mots tout à fait correctement. L'important, c'est que je m'exerce, là. L'important, c'est que je me pratique. Puis, à force de parler, à force de m'exercer, je vais finir par bien m'exprimer, là, dans la langue que je suis en train d'apprendre. » Donc, il faut vraiment mettre son orgueil de côté, puis mettre sa gêne de côté, puis se dire « Go, là, je me lance, puis je le fais. » Mais bon, c'est une autre étape, là, c'est ça. donc, voilà, je voulais juste vous prouver, là, vous montrer que je parle pas du tout espagnol. Malheureusement, oui, vraiment, c'est bien dommage. Mais c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, je vais terminer là-dessus cet épisode. Je vous remercie encore. J'espère que mes précisions ont ajouté quelque chose, que je suis pas venue compliquer les affaires. non, je pense que c'est correct. Et puis, donc, c'est la fin. Alors, comme on dit à la fin des films, là, à la télé, « The end », it's « the end » en anglais. Donc, merci encore, bonne journée, puis « take care ». Bye.